Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
2 heures pour faire le plein d'infos et de découvertes, c'est l'équipe est sauvage, emmenée par Mathieu Noël, tous les jours et même le week-end. À ses côtés, Eva Rock, sa complice, toujours là. Nos journalistes compétiteurs, pour lesquels vous votez d'ailleurs en semaine. Parmi les sujets évoqués durant cette première heure, il y aura la naissance du hip-hop en BD et résumé en 2 minutes en musique. Le fisc qui va pouvoir récupérer des indices sur le train de vie des Français via les réseaux sociaux. Ou encore la COP25. Et puis du côté des invités, eh bien on retrouvera le chanteur Tété, les comédiens Michael Youn, Sylvie Testu, le journaliste Karim Rissouli, l'humoriste Vérino et Michel Blanc à l'affiche en ce moment du film Docteur.
Il arrive parfois dans nos vies des moments comme ça qui frisent la perfection. Ma rencontre avec Michel Blanc est de cela. C'est vrai, je suis ravi de le recevoir et d'avoir l'opportunité de passer 2 heures avec lui. Et réciproquement, Michel est ravi à l'idée de passer 2 heures avec moi. Quand son attaché de presse lui a annoncé, il était enchanté.
J'ai mis l'Adagio d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif et puis j'ai perdu 16 kilos dans la moquette.
Plaisir partagé donc, Michel.
Absolument.
On vous accueille à l'occasion de la sortie mercredi prochain de Docteur de Tristan Seguela avec Hakim Jemili, peu connu encore du grand public, mais en revanche, on l'a dit, très connu des internautes. Michel Blanc, on continue d'évoquer ce film et de regarder aussi un peu dans le rétro de votre carrière. Mais voici un nouveau compétiteur qui a clairement choisi sa stratégie pour gagner aujourd'hui, la flagornerie, puisque Thierry Geffrotin va nous parler d'une figure qui incarne vos deux passions, Michel Blanc, le cinéma et la musique classique.
Oui, c'est la sortie d'un nouvel album de Richard Galliano, le grand accordéoniste, qui me donne l'occasion de vous parler de Michel Legrand, puisqu'il fait un hommage à Michel Legrand, tribute, comme on dit aujourd'hui en mauvais français.
C'est vrai.
Et on retrouve les plus belles mélodies de Michel Legrand, jouées par Galliano, c'est pas rien. Donc si je vous dis Michel Legrand, vous pensez sans doute à ça.
Ça rend bien avec
Galliano, c'est artiste. Hein. Mais Michel Legrand, c'est aussi ça.
Ça, vous êtes sûr que c'est Michel Legrand ? Vous avez bien vérifié ?
Oui. C'est son concerto pour piano, là. Ça vous embouche un coin.
Ah oui, ça m'embouche un coin, parce que j'ai cru que vous alliez dire que Michel Legrand était passé à côté d'une carrière d'artiste.
Il avait son petit jardin pas tout à fait secret. Il a continué à composer de la musique dite classique. Et en effet, c'était plutôt le... Après son cursus, il aurait dû continuer à creuser ce sillon. Alors, on va pas résumer la carrière de Michel Legrand, c'est trop compliqué. Mais son enfance, son père était compositeur. À 4 ans, il se met au piano. Il est déjà très doué. Hein. Il est fasciné, parce qu'il a été au cinéma, par Tino Rossi, qui interprète le rôle de Franz Schubert. Comme il est très doué,
il a de l'imagination à
ce moment-là. Mais je pense que c'est la figure de Schubert qui l'impressionnait.
Que Dino Rossi.
Ouais. Il entre très vite au conservatoire.
Petit papa Schubert.
Ça, c'est bon, ça. Comme il est très doué, je parle de Michel Legrand, il entre au conservatoire à 9 ans, c'est-à-dire qu'il a une dispense de 4 ans, parce qu'il faut 13 ans, l'âge de 13 ans pour entrer au conservatoire. Il fait des étincelles.
Hein. Il est très fort, c'est un génie.
Très fort. Il raconte alors il en avait des anecdotes. Un jour, un examen de dictée musicale, le pianiste joue le morceau une première fois et puis commence la dictée musicale. Et Michel Legrand dit, moi, j'avais déjà tout noté dès la première fois. Vous voyez, ça, c'était le genre de Legrand qui est, un génie de la musique, hein, tout simplement. Alors, ce génie...
Comment il quitte l'univers du classique ?
Ça, c'est dingue. Parce que, en fait, après avoir travaillé avec Nadia Boulanger, aujourd'hui, on connaît plus son nom, mais elle a formé des générations de compositeurs, de musiciens, c'est-à-dire Quincy Jones, Daniel Barenboim, Vladimir Kosma, Leonard Bernstein, George Gershwin. Vous voyez, il a été 7 ans l'élève de Nadia Boulanger et il se dit, je vais faire une carrière de musicien classique. Sauf que, il n'est pas programmé. Donc, il décide de donner des concerts. Et comme personne ne le connaît, il va vivre d'abord en accompagnant des chanteurs dans les cinémas. C'est l'époque où il y a encore des numéros. Hein. Et il devient pianiste aux Trois Baudets. Et c'est là le déclic. C'est-à-dire qu'il rencontre Brassens, Ferret. Il commence à orchestrer pour eux. Finalement, il est sollicité par Henri Salvador, Maurice Chevalier. Et il va choisir le cinéma au moment de la nouvelle vague. Et c'est la rencontre, évidemment, avec Jacques Demy. Et hop,
heureusement, c'est histoire de rencontre dans la vie. Parce que s'il avait rencontré Tino Rossi, par exemple,
il aurait fait Schubert.
Ça n'aurait pas été la même carrière.
Voilà. Mais c'est quand même étonnant, comme vous le dites, c'est les rencontres qui font une carrière.
Michel Blanc aurait pu être pianiste aussi. Concertiste.
Ah non, hélas.
Comment ça, non, hélas?
Si j'avais eu les moyens, je l'aurais été. Mais j'ai commencé trop tard. Je suis l'anti-Michel Legrand, parce que j'ai commencé le piano à 13 ans. Et c'est trop tard.
C'est trop tard pour devenir un grand pianiste. Mais vous touchez votre bille quand même.
Ça fait longtemps que je n'ai pas joué parce que je n'ai plus de piano à la maison. Il ne passait pas dans l'escalier.
Ah oui, c'est pour ça.
Il ne passait pas par la fenêtre. Alors, je m'en suis séparé.
Vous avez un demi-queue ou un queue, parce que tous les pianos passent dans les escaliers.
Ah, non, pas
c'était, c'était effectivement c'était un grand Steinway, un beau, très au-dessus de mes moyens personnels, financiers aussi un peu. Et voilà. Je m'en...
Mais
alors, ce qui m'a fait
pas,
plaisir, c'est que, vous savez, lâcher un piano que vous aimez, c'est très étrange. On a un rapport très étrange. Et j'ai été très heureux parce que quand je l'ai vendu, je me disais, il va finir chez un gros con sur la Côte d'Azur ou un mafieux
qui
russe.
Qui le pose juste sur le salon.
Sur lequel on va poser des verres. Et en fait, il a été acheté par un conservatoire allemand.
Ah, donc c'est bien.
Il
forme des jeunes
il
pianistes.
Il a enfin de bons pianistes qui jouent dessus.
Mais ça ne vous manque pas de ne pas jouer ?
Si.
Ouais.
Mais bon.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
Avec Mathieu Noël, les moments qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Alors lundi, le chanteur Tété est venu nous parler, entre autres, de la réédition de son album Fautantique. Et surtout, il a pu découvrir les sujets de nos chroniqueurs compétiteurs, et notamment celui d'Anne Le Gall.
Anne déteste les gens qui émettent du CO2 alors qu'elle défend les vaches, ce qui est paradoxal. Certains la disent extrême.
Et oui, qui émettent du méthane.
C'est vrai, beaucoup trop d'ailleurs. Certains la disent extrême dans son combat écologique. Moi, je la trouve plutôt ouverte. Si je vous dis par exemple, Anne, qu'il y a encore en 2019 des gens qui se disent climato-sceptiques.
Mais rassurez-vous, ça se soigne.
Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord.
Non, je suis un petit peu moins radical que ça quand même.
La COP25 est lancée, Anne. On sait d'ailleurs qu'elle patine un peu. Les pays peinent à se mettre d'accord. Pourtant, des preuves du réchauffement climatique sont là, et même de plus en plus là.
Voilà, c'est quand même compliqué d'être climato-sceptique aujourd'hui. Et pourtant, il y en a, selon une étude Ipsos menée auprès de 25 000 personnes dans 30 pays. Il reste dans l'opinion publique, combien, à votre avis, combien, quel pourcentage ?
10%
de... 10%,
c'est
effectivement,
ça, ouais.
Et aux États-Unis, c'est deux fois plus, c'est 20% de la population qui se dit climato-sceptique. Et pourtant, les données scientifiques sont formelles. Depuis le milieu du 19e siècle, on émet de plus en plus de gaz à effet de serre, notamment du CO2. Ça augmente de façon exponentielle. Aujourd'hui, on est à 2% de croissance par an. Ça a pour conséquence, évidemment, d'augmenter la température. Donc, depuis le début de l'ère industrielle, la température a déjà augmenté sur la planète de 1 degré. Et je vous rappelle que l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter ce réchauffement à 2 degrés à l'horizon 2100, donc toujours par rapport à la période pré-industrielle. Donc, on a des chiffres et en plus, on a désormais la preuve que tout ceci, on le sait depuis des années, les années 70. Il y a une étude de l'Université de Californie, vous êtes très au courant, Tété, qui vient de confirmer, après un an de recherche, que 14 des 17 modèles de prévision climatique qui ont été établis depuis la fin des années 70, 14 de ces modèles sont fiables. Donc, on avait déjà les équations faisant le lien entre CO2 et montée des températures. Donc là, le doute quand même n'est plus vraiment permis aujourd'hui.
Mais question pernicieuse, sans être complètement climato-sceptique, est-ce qu'on peut nier que ce réchauffement est lié à l'action humaine ?
Alors,
vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois ce que vous voulez dire. Là,
les
encore,
grands cycles, tout ça.
Ouais, voilà. Il y a encore un consensus scientifique là-dessus. C'est bien l'homme qui est à l'origine de ce réchauffement. Mais je vois à quoi vous faites allusion, Mathieu. C'est vrai qu'en septembre, il y a eu une fake news qui a circulé sur Internet et qui mettait en cause notamment la NASA. Il y aurait eu un article de la NASA qui dédouanait l'homme du réchauffement climatique, sauf qu'on sait maintenant que c'était une fake news. En fait, c'est une interprétation déformée des travaux de la NASA. Donc, c'est un journaliste en fait, climato-sceptique qui a pondu cet article. Donc, le journaliste évoquait une théorie qui existe. C'est une théorie selon laquelle le réchauffement de la planète serait dû à l'axe d'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Sauf que ce réchauffement-là, où les changements de température se font sur des millénaires et des millénaires...
Oui, mais c'est ça qui est pernicieux, Anne.
C'est ça qui est pernicieux.
Parce que c'est vrai, c'est pas une fake news. La théorie de Milankovitch, elle est vraie, mais c'est sur des cycles qui sont tellement longs que ça concerne même pas l'histoire de l'humanité, en fait.
Exactement, et à aucun moment, la NASA n'a fait le lien entre cette théorie de Milankovitch et le réchauffement qui est beaucoup trop important pour être dû à cette théorie-là, à l'axe de la Terre. Donc c'est bien l'homme qui est à l'origine du réchauffement climatique.
Merci beaucoup, merci. Anne Le Gall. Une chronique qui aura certainement intéressé notre invité, Tété.
Ah bah oui, parce que tout ça me terrorise. Je veux dire, on avait modélisé la fonte des glaces au pôle et ça a fondu 2, 3, 4, 10 fois plus vite.
Oui.
Qu'est-ce qui était
voilà,
prévu.
Et quand je disais qu'il y avait certains modèles qui n'étaient pas justes depuis les années 70, en fait, ces modèles-là, ils avaient...
ils n'étaient pas justes, mais dans
alors,
le sens où...
Ils avaient prévu des températures qui augmenteraient trop vite, notamment parce qu'ils n'avaient pas pensé qu'à un moment, on arriverait à interdire les gaz dans les frigos, vous savez, ceux qui faisaient un trou dans la couche d'ozone. Mais... Donc à un moment, heureusement, on a pris des mesures.
Mais comme quoi, l'homme peut s'améliorer.
C'est ça. L'homme peut peut s'améliorer et c'est plein d'optimisme aussi.
Bah, c'est la question que ça pose, parce que moi, enfant, je me souviens du tollé que ça avait été, cette découverte du trou dans la couche d'ozone.
Oui, oui.
Et moi, je me remets toujours pas de la vitesse à laquelle on a réussi à résorber le truc. Alors, je crois qu'il
c'est
y a encore
fini,
un trou.
Hein, voilà.
Il y a notamment celui de l'Australie où vous allez bientôt. Donc, je compte sur vous pour finir le travail. Boucher tout ça.
Il y a une histoire de saison, parce que je crois qu'il disparaît, réapparaît, hiver, été. Mais je me dis, à quel point est-ce que c'est transposable ce qu'on a fait sur la couche d'ozone, à quel point est-ce que c'est transposable avec la litanie de problèmes.
Ouais, ça, on ne sait pas. Ça, il faudrait
mais
que
s'impose à nous. C'est plus compliqué de mettre fin aux émissions de CO2
que
la, on émet quand même beaucoup plus.
De la couche d'ozone.
16h-18h sur Europe 1. L'équipé sauvage.
16h20, vous écoutez Mathieu Noël, toujours entouré d'Eva Rock et de ses invités. Jeudi, ce sont les acteurs Michael Youn et Sylvie Testu qui étaient venus nous présenter leur nouveau film, Rendez-vous chez les Malawas. Une comédie familiale qui raconte les péripéties de quatre stars dans une tribu africaine pour une émission de télé.
Je les sens extrêmement impatients.
Impatients, mon cul.
Oui, bonjour Sylvie Testu.
Bonjour.
Toujours
c'est
un plaisir.
Élégant, hein, c'est bien. Hein.
Toujours un plaisir de vous avoir dans l'équipe sauvage. À vos côtés, votre partenaire dans le film Rendez-vous chez les Malawas. Bonjour Michael Youn.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir tous les deux pour ce film qui sort le 25 décembre. Un film dans lequel vous jouez, Michael, que vous avez coécrit, mais dont vous avez carrément eu l'idée. C'est vous qui êtes à l'origine de ce projet.
J'étais dans mes toilettes. Je suis désolé. Je vous raconte toute l'intimité de ce
mais
projet.
La vérité.
Et je lisais France Football. Oui, c'est une lecture de tous les instants pour moi. Et il y avait un joueur de foot. Quand on lui demandait qu'est-ce que vous pensez du star system dans le foot, tout l'argent qui circule dans ce milieu, il disait je pense qu'on devrait envoyer certains joueurs de foot dans des tribus reculées d'Afrique ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je pense que ça leur remettrait un petit peu les pieds sur terre. Et là, je me suis dit mon Dieu, quelle bonne idée. Il faut le faire en vrai, et avant de le faire en vrai, on va le tester en film.
Rendez-vous chez les Malawas, comédie familiale, parodie de la célèbre émission Rendez-vous en Terre Inconnue animée par Frédéric Lopez.
Pas vraiment.
Comment ça, pas vraiment?
J'ai l'impression que ça raconte plus toutes ces émissions-là que particulièrement celle
de
Fred Lopez.
C'est vrai, vous êtes sûr de ça?
C'est une parodie des invités, ouais. Plutôt.
C'est plus une parodie des invités qu'une parodie
alors,
de l'émission.
Racontons en quelques mots l'histoire, Eva.
Il y a quatre personnalités. Donc, Michael Youn, vous jouez un footballeur. Sylvie, vous jouez une comédienne d'une série dans laquelle elle
vétérinaire.
Très intello.
Christian Clavier qui est présentateur du 20h, enfin qui vient de se faire virer. Et puis Ramzi Bedia qui est un humoriste un peu sur le déclin, voilà, qui aimerait bien remplir les salles. Et tous les quatre, vous partez pour un spécial, donc Rendez-vous au bout du bout du monde. Qui est présenté non pas par Frédéric Lopez, mais par, comment il s'appelle, Poli.
Léo Poli,
ça me fait très rire. Voilà, par Pascal Elbé. Et vous vous retrouvez dans une tribu chez les Malawas en Afrique. Et c'est vrai que tout ça vous bouleverse, hein, quand les caméras sont en marche. Quand les caméras ne fonctionnent plus, vous cherchez l'hôtel.
Ils sont très généreux dès que ça tourne.
Voilà,
évidemment, rien ne va se passer comme prévu, pour une raison qu'on ne peut pas expliquer. Ils vont devoir fuir cette tribu et ils vont se retrouver perdus dans la savane avec comme seul bagage leur égocentrisme.
Exactement.
Comme un Européen.
On ne peut rien
avec
révéler.
Avec les glandes à oui.
On ne peut rien révéler. On peut dire qu'à un moment, ça part en couille. En tout cas.
Ça part en sucette.
On peut le dire.
Ça part en sucette.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Même si 90% de mon temps de travail est consacré à me foutre de sa gueule, j'aimerais signaler à toutes fins utiles aujourd'hui que j'aime beaucoup Eva Rock. Elle est ma complice, mon âme sœur professionnelle. Ensemble, on a vécu les succès d'audience les plus enivrants, mais aussi les moments les plus embarrassants, comme la fois où un grand humoriste a débarqué dans le studio un peu plus tôt que prévu, alors qu'on parlait de son nouveau spectacle. Tu l'as vu le spectacle de... Non.
Oui.
Ah si, c'est pas bien?
J'ai vu... Bonjour.
Eva, rien pour votre soutien dans ce genre de moment. Si, je vous confirme qu'on l'a fait. Je devrais plus vous ménager. D'ailleurs, je vais vous ménager aujourd'hui.
C'est moche.
Michael Youn, Sylvie Testu.
Pas souvenir de...
Non, mais c'est pour ça.
On sait que c'est un artiste qui a un nom de scène très court. Parce que le VIP était très léger.
Mince, on a découvert texte. Michael Youn, Sylvie Testu. Normalement, pour le quiz du jour, l'invité est opposé à Eva. Mais comme vous êtes deux, j'ai demandé la SDJ, la Société des Jeux d'Europe 1, pour connaître le règlement. Le voici. Sylvie Testu, vous êtes opposé aujourd'hui à Michael Youn. Mais vous pouvez utiliser le joker Eva Rock pour qu'elle réponde à votre place. Vous en avez autant que vous voulez. Du coup, elle peut se retrouver à jouer contre elle-même, ce qui, dans l'histoire des quiz, ne s'est jamais vu. C'est parti pour un quiz sur les coutumes du monde en hommage à votre film Rendez-vous chez les Malawas. Sylvie Testu, à Madagascar, pour la lune de miel des jeunes mariés hindous, une flèche est tatouée haut et nez sur le corps de la jeune fille pour indiquer au mari où se trouve son sexe. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? C'est vrai.
Vous êtes sûr?
Non mais ça me fait rigoler. Alors j'aimerais bien que ce soit
moi aussi, mais c'est faux. Par contre, la mariée est intégralement tatouée au henné et le marié doit retrouver l'initiale de son propre prénom avant de consommer le mariage.
Oui, bah, c'est comme une petite flèche, oh, c'est pareil, c'est une indication.
En tout cas, les préliminaires doivent être longs. Michael Youn, en Australie, la tribu des Walbris, des Walibris, pardon, pour se saluer, ne se serre pas la main, mais le pénis. Vrai ?
J'ai moi-même été Walibri. Au parc Walibri. Walibri, Walibri, j'en suis pas bras. Pardon, excusez-moi. J'adorerais que ce soit vrai, mais malheureusement, c'est faux.
Eh bien, figurez-vous, vous auriez dû plus fréquenter le parc Walibri, puisque c'est vrai.
Non.
Eh oui, il se serre, non pas la main, mais le pénis. C'est une tradition. Il existe plus de 250 tribus en Australie. Il existe tellement de façons de se dire bonjour.
C'est vrai.
Fascinante Océanie. Sylvie Testu.
Cela dit, si tu dis bonjour à Vincent Moscato comme ça, c'est pas ouf. Donc bon, ça va quand c'est Dave.
Ouais. Qu'on embrasse, t'es un très bon invité aussi.
Je suis venu que pour me faire des copains.
Sylvie Testu, en Grèce, quand les enfants perdent une dent, au lieu de la mettre sous l'oreiller, on la met sur le toit de la maison.
Vrai, vu comment c'était parti avec on se serre le pénis, je me suis dit allez.
Non là c'est
allez,
très simple.
Dans les fesses des enfants. Europe 1, viens changer. Coluche, reviens.
Alors d'après vous, non pas dans les fesses, sur le toit.
Moi je dirais que c'est vrai. Peut-être qu'il n'aime pas les souris, je ne sais pas. Comme ça la souris va sur le toit. C'est peut-être possible. C'est une souris qui se balade sous l'oreiller, ça fait chier tout le monde. Donc je me dis, autant la foutre dehors. Peut-être une chance de se casser la gueule par la cheminée.
Donc oui. Vous répondez vrai.
Vrai.
Vous avez beaucoup
mais attends,
réfléchi.
J'avais encore plein de
mais c'est vrai.
Dire.
Ça porte chance.
J'avais fini ma phrase. Attends. J'avais beaucoup pensé à ça.
Donc c'est alors, vrai que
c'est vrai
qu'en Grèce, on met la petite dent sur le toit et, et la petite souris ne passe pas, il n'y a pas de petite pièce. Vivement que la Grèce sorte de la crise.
Pourquoi il n'y a pas de souris?
Parce qu'ils n'ont pas de blé. Michael Youn, au nord-ouest du Canada, attention, cette question va vous départager, même si je crois que Sylvie a déjà gagné. Ouais. Au nord-ouest du Canada, dans le
c'est
territoire
faux.
Du Yukon, du Yukon, j'ai jamais su comment on disait ça.
Yukon, c'est bien.
Du Yukon.
Ça sonne bien.
Dawson ouais. City, le bar de Downtown Hotel propose un cocktail traditionnel étonnant, un whisky dans lequel macère des testicules d'orignal. Vrai ou faux?
Oh, ça doit être vrai, ça.
Non, c'est protéger les orignaux.
Les orignaux? Un orignal des orignaux. Non, mais
protégé.
D'accord, mais une fois qu'il est mort, on peut quand même boire un peu ses testicules.
Non, je pense que c'est protégé.
Je pense qu'il y a des...
Qu'est-ce que vous répondez?
Vu qu'il y a quand même des mecs qui s'habillent en Asie pour se sodomiser au-dessus d'une poubelle, je vois pas pourquoi. Il n'y en a pas comme envie de boire. Du coup,
alors, tu vois, la logique va te sauver,
alors,
Mika.
J'aurais eu envie de vous donner le point parce que c'est vrai que le raisonnement logique était le bon. Parce que c'est vrai que des couilles d'orignal, finalement, c'est pas grand-chose par rapport à la réalité de la chose. C'est donc faux. En revanche, il y a dans la bouteille un orteil humain. Oh. Une tradition qui date de 1973, le whisky est servi dans votre verre avec l'orteil. La tradition veut que vous buviez en touchant avec vos lèvres l'orteil sans l'avaler. On estime à 60 000 personnes les gens qui ont testé la boisson. 2 500 $ d'amende si vous avalez l'orteil. Le bar s'arrange avec les docteurs du coin qui pratiquent des amputations d'orteil pour cause de grand foie.
Mais non.
On est évidemment, mais on le rappelle, dans le nord-ouest du Canada. Qui remporte ce quiz? C'est évidemment Sylvie Testu.
Il me semble.
Je crois
oui.
que j'ai pas marqué un seul point.
Oui, c'est un record de nullité. Aucun point en Granger.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Il est 16h30 et on reste avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, ses invités, ses chroniqueurs et retour sur l'invité de mercredi. L'humoriste Verino était sur Europe 1.
Avant de vous lancer dans une carrière d'humoriste, j'ai lu que vous étiez sportif. Vous faisiez, paraît-il, de
la douleur de cette description.
Il y a longtemps.
Vous voyez bien.
Quand vous étiez gaulé, vous faisiez de l'athlétisme.
Exactement.
Ma
ça.
Question est donc la suivante. Pratiquiez-vous l'athlétisme à un aussi haut niveau qu'Eva Rock, ici présente?
Je pense que Eva nous éclate tous au 100 mètres.
Non, pas au 100 mètres. Vous faisiez du saut en longueur, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ouais. Et quand j'ai vu que je sautais pas assez loin, du coup, j'ai fait des blagues.
Mais à quel moment vous avez essayé de faire du saut en longueur? C'est pas un sport.
Je trouve ça génial. C'est de la technique pour rien. Tout ce travail, des années passées à courir dans le froid pour finalement juste sauter à 6 mètres 43 à l'époque.
6 mètres 43, c'est énorme.
C'est pas mal.
Le record du monde, c'est quoi, 8 mètres 40?
C'est exactement. Tu viens de m'humilier dans la même phrase.
Monde,
mais c'est extraordinaire. Vous êtes à 2 mètres 50 du record du monde.
Et c'est pas loin.
8 mètres 95, Mike Powell en 1991.
Et lui, il n'a jamais foutu les pieds sur un stade d'athlétisme et pourtant, il est gaulé comme Carl Lewis au meilleur de sa forme. La nature est injuste. Voici Anissa Mbida. Anissé, qui cela dit a un talon d'Achille et même deux, sa voix d'abord. CF, le karaoké Freddie Mercury que vous retrouvez en podcast. C'était le jour où on a reçu Garou, je vous dis ça comme ça. Et puis, deuxième talon d'Achille, une propension naturelle à la bourde, comme lundi face au chanteur Tété, quand j'ai menacé de rediffuser l'extrait du son karaoké.
On a dit pas face à des chanteurs. On a dit pas face à des chanteurs. On a dit pas face à des chanteurs. C'est pas sympa.
Parce que tu l'as fait face à Garou.
Oh, mais.
À l'instant, ce texto de Garou, qu'est-ce qu'il veut dire exactement par « Oh, mais gnognognognon » Sacré Anissé. Heureusement, c'est si vous génial. Êtes nul en diplomatie, vous êtes hyper doué en nouvelles technologies. Des nouvelles technologies qui, avec l'accord du gouvernement, sont en passe de se retourner contre nous, Anissé.
Oui, on savait que le fisc surveille déjà nos comptes bancaires. Eh bien, désormais, ça a été voté au Sénat, il va avoir droit d'utiliser des algorithmes automatiques pour aller surveiller tout ce qu'on publie sur Internet. Donc, par exemple, quand vous publiez une photo en jet privé dans votre supercar, Mathieu, ou quand Eva va vendre sur Vinted les baskets de Marie-Josée Pérec à 100 000 euros, ou quand Vérino va gagner un concours de Battle Royale sur Tetris 99, par exemple, 2 millions d'euros, et qu'il ne l'a pas déclaré sur Internet, bah, vous pourrez être attrapé par le fisc. Et d'ailleurs, la CAF vient d'épingler une femme grâce à Facebook. Elle a perçu une allocation de parents isolés pendant 4 ans. Alors qu'elle était en couple, on s'est rendu compte que sur Facebook, elle était en couple et qu'elle était toujours avec son ancien mari. 25 000 euros elle doit rembourser 25 000 euros, 1 500 euros d'amende. Alors jusqu'ici, tout ça, c'était fait coup par coup. Hein. C'était l'inspecteur qui allait regarder de lui-même sur les réseaux sociaux. Bah maintenant, ça va être un algorithme qui va faire ça de façon complètement automatique.
Question simple, est-ce que l'État a le droit de faire ça? Que dit la CNIL?
Alors la CNIL, elle est complètement vent debout devant ce projet. Elle estime que ce système est susceptible de porter atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression.
Mais oui.
Et c'est pour ça que Gérard Darmanin, le ministre des Comptes publics, a quand même précisé que cette surveillance va se faire sur 3 points en particulier. Le premier, c'est le trafic souterrain. Vous savez, ceux qui vendent des cigarettes de contrebande ou qui vendent de la drogue sur Internet, sur eBay, des choses comme ça. Le deuxième point, c'est l'activité professionnelle non déclarée. Quelqu'un qui dit qu'il est au chômage alors que sur LinkedIn il raconte toute son activité, tous les spectacles qu'il est en train de tourner partout en France.
Chut, enfin.
Ou la domiciliation fiscale frauduleuse, quand on est comme Vérino domicilié en Belgique alors qu'on a des enfants scolarisés en France.
Non, mais j'ai l'accent.
Avec des enfants. Vous le tenez bien.
Scolarisés en France.
Un futur sketch peut-être.
Et donc tout ça peut être repéré automatiquement par les algorithmes de l'État. Alors il y a quand même quelques petites zones de flou. Hein. On ne sait pas comment il va faire le lien entre les pseudos et le nom réel. Ah, par exemple, Vérino et Olivier, est-ce qu'il va faire la liaison, comment il va le faire. Alors ils ont quand même mis quelques garde-boue, mais c'est quand même
garde-fou,
parce que les garde-boue c'est sur les voitures, c'est sur notre Aston Martin. Parlons-en d'ailleurs, puisqu'on parle de l'extérieur.
On n'a dit pas devant les humoristes. Voilà.
Donc ils ont l'État a quand même mis quelques garde-fous. Parce que c'est quand même pas très rassurant de savoir que l'État est capable de balayer les réseaux sociaux, donc de connaître votre sexe, vos par exemple.
Moi, il n'était pas secret. Moi, je l'avais. J'ai dit vraiment à pas mal de gens.
Mais les opinions politiques, les opinions syndicales, les opinions religieuses, etc. Alors l'État dit qu'il va supprimer ces informations, mais il va quand même les collecter. Alors ça doit passer à l'Assemblée et au Conseil constitutionnel, mais ça inquiète quand même beaucoup, beaucoup de gens.
Et soyons précis, est-ce qu'ils peuvent tout voir ce qu'on fait sur Airbnb, Booking,
il y en a un qui flippe là.
Je ne parle pas de Pornhub et de tout ce genre de site que vous fréquentez.
Alors rassurez-vous, Mathieu. Non. Uniquement ce qui est public, donc Uber, Pornhub, etc., c'est privé, personne ne peut le voir de façon publique. Mais si vous faites des photos de selfie un peu tendancieuses avec, je ne sais pas, vous avez fait un shopping à la Kylie Jenner ou vous faites des choses comme Kim Kardashian, eh bien mettez-les en privé sur Insta ou sur Facebook, comme ça vous êtes sûr que le fisc ne pourra pas les voir.
Si vous ne payez pas les impôts, sinon tout va bien.
Oui, c'est ça. Oui,
c'est la question que j'allais vous poser. Si vous déclarez tranquillement vos impôts et que vous pouvez faire ce que vous voulez et montrer ce que vous voulez. Si c'est peut-être pas très malin non plus, mais... Merci en tout cas, Anissé Mbida.
Si le truc c'est de rester en privé, c'est quand même assez ridicule de la part du fisc de lancer ce grand barouf quoi.
Et ils vont te demander en ami. Le fisc. Le fisc vous demande
un peu de fisc.
Non, mais c'est tout l'intérêt du système, c'est que quand on fait un shopping à la Kardashian ou qu'on est dans un chef-prix, on veut le faire savoir à tout le monde, donc on ne met pas en privé ce genre de choses.
Évidemment, quel scandale, ça va coûter tellement d'argent pour récupérer les trois gars qui sont. C'est toujours pareil, quoi. On flique l'énormité de la population en faisant croire qu'il y a beaucoup de gens qui exagèrent, mais non, ils sont quatre et puis le but c'est récupérer nos données, c'est tout. Général du grand capital, levez-vous.
Redomicilez-vous en France et tout ira bien.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
avec Mathieu Noël. Et le week-end, vous le savez, on vous concocte une jolie compilation avec les invités de la semaine passée. Et il se trouve que l'invité de mardi, eh bien, c'est un ancien d'Europe 1.
Chaque dimanche, il présente Ses Politiques, une émission qui parle de politique différemment, avec toujours un pas de côté qui la rend passionnante. Bonjour Karim Rissouli.
Bonjour Mathieu.
Déjà, ça vous fait quoi de vous retrouver face à un micro bleu et blanc?
Ça fait 10 ans.
Ça fait 10 ans.
Ouais, j'ai presque envie de pleurer.
Bah oui.
Et c'est vrai qu'il y avait des, il y avait quoi,
il y avait des siestes.
Il y avait des siestes. Il y avait des repas arrosés. Ça marchait super bien. Mais ça va revenir.
C'est en train de revenir, Karim. On va parler du succès de Ses Politiques, votre émission qui dépasse souvent les 900 000 téléspectateurs. C'est ça, Karim.
C'est ça.
Ses Politiques, si vous connaissez pas, c'est cette émission de France 5 chaque dimanche à 18h35 où on parle politique ou en tout cas d'enjeux politiques, mais sans homme politique.
C'est original.
C'est votre martingale. Mais en fait. Ça marche très fort et je pense que plein d'émissions vont vous imiter maintenant.
Je crois qu'ils ont un peu commencé à nous imiter. Il y a des interviews politiques le matin sans homme politique maintenant, ouais, sur certaines radios.
C'est vrai. Et
oui, et ce qui est assez fou, c'est qu'on l'a mis en place l'année présidentielle, en 2016. Donc c'était un peu compliqué de dire on a une nouvelle émission avec des nouvelles têtes, vous ne connaissez pas. Et en plus, vous ne connaîtrez pas les invités non plus. C'est super. mais effectivement, ça marche parce que oui, le postulat, c'est que la politique appartient à tout le monde. Mais ici aussi, vous parlez de politique tous les jours aussi à votre manière. Donc
non, vous confondez, vous écoutez notre radio. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes politiques, vous les trouviez à force de les fréquenter trop rodés à l'exercice journalistique.
Oui, et puis ils étaient partout. Ils étaient partout. Il y avait 15-20 interviews politique par jour quand on a commencé l'émission.
Aujourd'hui, le succès est au rendez-vous en termes d'audience, mais est-ce qu'au début, ça a été difficile à imposer à la chaîne cette volonté de ne pas recevoir de politique?
Non, la chaîne était plutôt pour ça. Ça a été compliqué pour nous, en interne. Quand on commence à inviter des intellectuels qu'on veut en plus s'imposer la parité homme-femme, etc., etc., on se met des contraintes assez énormes, mais au bout du chemin, ça fonctionne.
Oui, est-ce que vous n'êtes pas aussi arrivé à un moment où la génération d'hommes politiques, c'était à la fois les anciens qu'on n'arrêtait pas de voir partout, comme vous dites, et puis la nouvelle génération qui n'était pas très connue non plus,
si,
des Français,
vrai.
Et pas
moi,
forcément intéressante.
Après Europe 1, j'ai fait un détour par Canal+, à une époque où il y avait encore dans le personnel politique des gens comme Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal. 2007 par exemple, alors j'étais encore à Europe, mais c'était une année où on avait envie limite de stariser les politiques. Et c'est vrai et c'est, je pense, très bien que ça ait changé. Les politiques sont devenues peut-être des personnalités un peu plus normales, entre guillemets, qui doivent faire leur job de politique, et du coup, puisqu'ils ne sont plus des stars, qui vont sur les plateaux télé. Et c'est vrai qu'on est arrivé aussi à ce moment-là, je pense, de l'évolution du personnel politique.
Qui sait, il va peut-être vous réconcilier avec les émissions politiques. Il présente Ses Politiques chaque dimanche à 18h35 sur France 5. Karim Rissouli est avec nous cet après-midi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Partons à la découverte de notre invité du jour. Connaissez-vous, et le cas échéant, que pensez-vous de Karim Rissouli? On est allé vous poser la question. Voici, non pas un micro-trottoir, trop souvent falsifié pour flatter l'ego de l'invité, voici notre micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on n'a pas fait de montage, on a tout laissé.
Karim Rissouli de France 5, Ses Politiques.
Moi, je sens quelqu'un d'extrêmement tolérant, d'extrêmement ouvert, cultivé.
Il n'a pas l'air mal, hein.
J'espère qu'il est neutre. Pour un journaliste, c'est tout ce qu'on lui demande. Si, c'est intéressant.
Karim Rissouli.
Je trouve qu'il est ouvert, qu'il écoute en fait toutes les...
Rissouli.
Tous les témoignages, quels qu'ils soient, en tempérant les choses et en permettant d'écouter les arguments de part et d'autre.
Il lit 6 livres, il connaît très bien le parcours de ses invités.
Karim Rissouli, on ne peut pas connaître, on n'a pas la télé.
Moi, je suis toujours scotché devant l'émission, donc je ne quitte pas l'émission.
Rissouli,
c'est exceptionnel.
Bon, alors, Karim, à part que certains vous verraient bien vous appeler Harry Missouli,
oui, mais c'est très bien.
Ce qui est sympa aussi, globalement, vous inspirez confiance. Alors, évidemment, comme vous. Enfin, j'ai envie de dire évidemment, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, au contraire, vous appelez Karim, vous avez eu droit
évidemment
à votre lot de suspicions. Certains vous ont soupçonné d'avoir un agenda caché lorsque vous abordiez, par exemple, la question de l'islam dans vos émissions. Or, s'il y a quelqu'un qu'on ne devrait vraiment pas pouvoir soupçonner, c'est bien vous, car l'islamisme rigoriste, salafiste, vous l'avez croisé au sein de votre propre famille et ça vous a vacciné à vie.
Ça m'a traumatisé même. C'est une histoire familiale pas classique, parce que heureusement ça n'arrive pas à toutes les familles arabo-musulmanes, mais c'est dans la famille de mon père, donc marocaine. Mon oncle, enfin le deuxième de la fratrie de 11 enfants, est devenu l'un des tout premiers salafistes de la ville dans laquelle on habitait au Maroc.
C'était les années 90
À la fin des années 80.
Fin des années 80.
C'était un médecin qui n'avait absolument rien de religieux, qui je pense ne croyait à peine en Dieu à l'époque, puis qui d'un coup s'est trouvé un pouvoir en se laissant pousser la barbe et en devenant l'un des premiers salafistes du coin. points et qui a totalement déchiré la famille de mon père. Donc, qui s'est retrouvé scindé en deux clans. D'un côté, c'est mon père, qui est un laïc convaincu, ouais. Et de l'autre, cet oncle salafiste. Et moi, je me suis retrouvé un été au milieu où j'étais parti seul en
vous
vacances au Maroc avec ma sœur. J'avais 8 ans.
Ah oui, donc influençable à l'époque.
Et pendant un mois, il a essayé de me mettre le grappin dessus, comme on dit. C'est-à-dire qu'il me faisait venir l'après-midi, genre je jouais aux cartes avec mes cousines. Il me disait non, ça c'est pas bien. C'est tu vas aller en enfer si tu fais ça. Ton père ne fait pas la prière, il ira brûler dans les flammes de l'enfer, etc., etc. Ça m'a beaucoup traumatisé à l'époque.
Et vous en avez parlé à vos parents et c'est eux qui sont venus vous chercher.
Mes parents, ils sont arrivés. Ça a été le début de la scission dans ma famille. Ouais. Mais je dis ça et je raconte un peu en longueur pour dire que quand aujourd'hui certains m'attaquent en me soupçonnant d'avoir effectivement un agenda caché. Ouais. Il suffit que je pose une question sur le voile à un invité pour qu'on imagine que derrière,
c'est fou, ouais.
J'ai envie d'en faire une interprétation politique. Ouais, ce sont des choses qui me touchent encore beaucoup, mais je travaille dessus.
C'est bien, et c'était important de raconter cette histoire pour mieux comprendre.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
2 heures pour se détendre et s'informer, c'est ça l'équipée sauvage, toujours en compagnie de Mathieu Noël, que vous retrouvez tous les jours et même le week-end, puisqu'on vous compile le tout autour de Mathieu Noël et Varoc, les invités, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 en compétition. Eh bien, on va découvrir sans plus attendre le sujet de Fred Goati en présence de Michael Youn et de Sylvie Testu, c'était jeudi.
Et c'est un défi immense que j'ai lancé à l'un d'entre eux, Fred Goati, directeur de Jazz Magazine, m'initier au rap, sachant que je me suis arrêté à... Fred, votre mission est délicate, mais moi je ne l'ai pas oublié.
Alors...
D'autant que vous allez nous expliquer le rap en présence de Michael Youn, alias Fatal Bazooka. Ce flow inoubliable et plus intimidant encore peut-être en présence de Fatal Bazookette, la Diams de la Baie des Anges et Varoc qui prépare actuellement un nouveau titre choc.
On écoute le monde rire, sentir, on vous bousculte.
Yo,
au micro,
yo,
populaire, assaisonné, pimenté. Je préfère un son qui a plus d'âme. Eva lui fait les gros yeux. Sur Europe 1, on vous cule même parfois.
Oula,
très belle
fête. Attention, explicit lyrics comme on dit. Hein. Alors Fred Goati, pour nous raconter l'histoire du rap, vous n'êtes pas venu les mains vides.
Non, mais c'est pas si mal, cela dit.
Ouais, ouais,
c'est
j'ai
on a fait beaucoup de montage.
Oui, non, j'ai plein de bandes dessinées, je vais les distribuer à la fin. Ça s'appelle Hip Hop Family Tree. Ça raconte l'histoire du hip-hop façon comics vintage.
C'est génial.
On a l'impression que la BD a été dessinée dans les années 70, en fait, mais pas du tout. Le titre s'appelle Ed Pixar. C'est absolument génial. Et moi, ça me donne évidemment furieusement envie de faire écouter du hip-hop des débuts. Hein. Alors, c'était comment C'était comment le rap des débuts? Ça marchait comment Eh bien, ceci n'est pas un test. I'm rapping to the beat.
Rapper's Delight.
Bon, facile, hein. 79, il y a 40 ans.
C'était 79, ça?
Et oui, c'est le premier succès planétaire du hip-hop. Et à l'époque, d'ailleurs, on n'appelait pas ça le hip-hop. Vous vous souvenez comment on appelait ça?
Le Smurf.
Et pourquoi on appelait ça le Smurf?
Parce que ça s'accompagnait de la danse qui allait avec.
Oui, mais le Smurf, pourquoi le Smurf? Parce que le Smurf, c'est le nom américain pour les Schtroumpfs. Oui, et bien les danseurs étaient souvent en survêt de bleu avec un bonnet. Donc ça vient de là, ce surnom de Smurf, les Smurfeurs. Oui, monsieur. Mais revenons au Sugar Ray Leonard. Vous avez reconnu le Sugar Ray Leonard, vous êtes très très fort.
Sur un sample de Chic.
Sur un sample de Chic. Alors,
monsieur est connaisseur.
Il va faire la chronique, mais c'est très très fort, effectivement.
C'est parce que j'aime ça, c'est bon.
Et c'est un sample. Le sample, c'est l'art de l'échantillonnage. Tiens, on réécoute Chic quand même. Voilà, alors, le Sugar Hill Gang, c'était basé là-dessus. Hein. On chante, on étire, on échantillonne en français, on détourne, on emprunte, on vole un tout petit peu. Mais là, c'est ça, c'est un peu voler, c'est emprunter, c'est détourner. Alors, un second exemple. Jusqu'à la fin des années 80, il y avait un groupe qui s'appelait Cy Mandy, un groupe anglais d'origine jamaïcaine. Et bien, pour les grands connaisseurs de soul music, c'était juste un groupe très pointu. Voilà.
Et évidemment,
en 1990, c'est devenu
Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lille.
C'est ça le sens, c'est l'art du détournement.
Pour dire si je suis nul en rap, je crois que MC Solar, c'est le dernier rappeur que j'ai vu en concert.
Vous avez pas vu Ayam? Non.
Non, j'ai pas vu Ayam.
NTM non plus?
Non.
C'est dommage.
Alors il lui dit, Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Eh bien moi, Fred MC, j'aimerais vous rappeler aussi qu'au début, donc, ce qui fascinait les producteurs, les DJ, c'était le rythme. Par exemple, les rythmes de James Brown ont été samplés plus de 1500 fois. Vous vous rendez compte? Et c'est un jazzman qui a popularisé dans le monde entier une autre technique révolutionnaire de l'histoire du hip-hop, le scratch. Vous savez, vous posez la main sur un vinyle, puis vous faites revenir en avant et en arrière le diamant dans le sillon, et ça fait...
Herbie Hancock.
Waouh.
Cela dit, ça ne m'étonne pas.
C'est un puits de science, mesdames et messieurs. Michael Youn.
Mais il est très très fort. Herbie Hancock, Rock It. Vous vous souvenez du clip incroyable où on voyait des pantins bouger, ça faisait très peur aux enfants. Même à moi, qui ne comprends pas un enfant. En 1983. Donc, Revenons donc au début des années 80. Donc le hip-hop a commencé dès cette époque-là à conquérir la planète et même en France. Alors on se souvient tous de Chacun fait ce qui lui plaît.
Plaît,
qui est le premier tube de rap français en quelque sorte. Mais il y a le papa de M aussi. Vous vous rendez compte?
Louis
Chédid, oui. Tiens, écoutez ça. Ouais. Écoutez bien surtout les paroles.
Crise économique, déficit, blocage des prix, pouvoir d'achat, syndicat par-ci, patron par-là, embrouille à mini, casse-tête chinois.
Mais ça pourrait être écrit aujourd'hui.
Pour l'Amérique et la pommade soviétique.
Ah oui, là, vous voyez, ça a été écrit en 1983. C'est pour vous dire à quel point le hip-hop, la culture hip-hop qui regroupe, il faut le préciser, le rap, la danse et le graffiti, a commencé d'essaimer sur la planète entière dès le début des années 80. Et cette bande dessinée le recrée parfaitement.
Vous savez qui a produit le morceau Chacun fait ce qui lui plaît?
Vous?
Non.
Non.
Patrick Bruel.
Ah oui, c'est vrai,
en 82,
c'est vrai,
déjà
exact, ouais. Ah ouais. Il avait produit ça.
L'info
exact.
En plus de Mickaël.
C'est
la mémoire.
Non, mais
hip-hop.
Bon, comme quoi il avait du pif.
Exactement.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Alors les amis, vos oreilles ont déjà saigné tout à l'heure avec Fatal Bazookette, mais il vous reste encore à découvrir un autre génie du rap. Il est le premier rappeur à concilier recettes de cuisine et hip-hop. Il n'a pas encore de label, mais il a beaucoup de propositions. Je vous présente Snoop Doggy Bag.
Et je mange l'aïoli dans un mortier. Là, il te faudra mettre coupé. Avec de l'huile, l'aïoli doit se monter. Un peu de citron, oui, tu peux rajouter. Mais pas un œuf, tu vas te faire buter.
Chaque soir, Olivier Pouls, vous nous proposez une recette avec votre flow légendaire, peut-être aujourd'hui sans la rapper, directement comme ça.
Oui, directement comme ça. On va faire plus simple. Ça sera peut-être plus audible aussi.
Ça sera peut-être mieux pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui, Olivier?
Aujourd'hui, compliqué. Alors, vous connaissez mes petites approximations géographiques parfois,
oui,
avec les invités.
On s'en souvient, oui, avec le comte de Boudherbala.
Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, je me suis renseigné, donc j'ai décidé de vous proposer une recette du Malawa. Pas facile quand même.
Pas facile parce que ça n'existe pas.
Je me suis plongé dans les grimoires de cuisine africaine et j'ai fini par trouver la recette d'un grand chef malawa, Arthur Nkimbe, surnommé le Bocuse de la brousse. Et donc je vais vous proposer aujourd'hui une recette de bœuf. On a le bœuf malawa que je vais vous donner brut et puis que je vais réadapter éventuellement pour que chacun puisse la réaliser chez lui. Donc alors, il vous faut pour 4 personnes environ 800 grammes de bavette de bœuf de brousse. Alors, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre de la charolaise, ça marche aussi.
Alors, devient fou.
Si on doit aller le chasser, ça va être compliqué. Hein.
Un jus de Mkimbe. Alors ça, on peut le remplacer par du citron vert.
Ah, oui,
donc ça, il n'y a pas de souci non plus. Alors du gingembre haché, ça c'est pareil. Ils ont ça chez eux, on a ça chez nous, donc ça on peut l'utiliser aussi. Une cuillère à soupe. Un peu d'huile de tapanawa. Ça peut se remplacer par de l'huile de sésame ou d'arachide. Vous rajoutez un petit peu de piment. Alors nous, on a du piment d'Espelette. Vous découpez le bœuf en morceaux. Vous rajoutez un petit peu de sauce soja. Vous laissez mariner tout ça.
On le tue avant quand même.
Oui, alors on le tue.
À la
machette, éventuellement.
Évidemment.
Donc une fois qu'il est tué, donc vous découpez cette viande en petits morceaux. Vous rajoutez tous les ingrédients. Vous laissez mariner pendant une heure ou deux. Et puis vous saisissez ça à feu très très vif. Alors nous, on le fait dans une poêle. Là-bas, je pense qu'ils le font directement sur des braises. Nous, on le fait dans une poêle. Et vous avez une recette d'inspiration africaine un peu relevée qui, je pense, pourrait figurer dans le livre des cuisines de Malawa.
Vous avez inventé une recette sur le Malawa dans un pays imaginaire dans le film de nos invités Sylvie Testu et Mickaël Youn. J'aimerais vous raconter, faire part une anecdote, je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Mon amie Alessandra Sublet, qui à l'époque où elle présentait l'émission C'est à vous, recevait Alain Chabat pour le film À la recherche du marsupilami. Et le synopsis du film À la recherche du marsupilami, c'est qu'il y a une recherche du marsupilami qui s'effectue dans un pays qui s'appelle la Palombie, un pays fictif, et très, le plus sérieusement du monde.
Vous avez tourné en Palombie.
Alessandra demande comment était la Palombie. Est-ce que les Palombiens étaient accueillants? Et il y a vraiment eu un moment où Chabat pense qu'elle est au second degré, donc il cherche la vanne. Et en fait, il la trouve pas parce qu'il comprend très bien qu'elle attend de savoir comment est la Palombie pour éventuellement prévoir ses prochaines vacances.
Je suis pas sûr qu'elle le prenne très bien que tu rappelles cette anecdote.
Je suis sûr que je vais avoir un petit texto. Je lui fais plein de bisous. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et on reste avec Mathieu Noël pour la suite de cette compilation de la semaine passée. Mathieu Noël en chef d'orchestre, entouré de sa complice Eva Rock et des journalistes compétiteurs de la rédaction d'Europe 1 le week-end. Vous savez que c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir leurs meilleurs sujets. Et d'ici à 18h, eh bien on va parler par exemple des discothèques qui disparaissent en Espagne, moins 65% en 10 ans. Retour sur l'histoire des retraites du régime général au régime spéciaux. Comment est né ce système en France? Et puis il y aura aussi une nouvelle recette d'Olivier Pouls. Côté invité, on va retrouver l'humoriste Vérino, le chanteur Tété, l'acteur Michel Blanc ou encore le journaliste Karim Rissouli.
Un ancien de la maison devenu présentateur star de France 5, Karim Rissouli. Karim qui force l'admiration de ses anciens collègues, pas vrai Charrier?
T'as bien rebondi mon salaud.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Lui, il est, je dirais, dans l'attente d'un rebond. Rédacteur en chef à Europe 1 depuis 1992. Il le sent, ça va bouger pour lui. La télé ne va pas tarder à la paix, peut-être même le cinéma. Il y croit, il a encore glané le vote du public hier. Il est remonté à bloc, la preuve, ces mots qu'il a susurrés à mon oreille juste avant l'émission.
Je vous donnerai le vertige.
Jean-Philippe Ballas, avec vous, on prend la direction des États-Unis où la course à l'investiture a commencé côté démocrate avec un candidat étonnant.
Alors quand vous cherchez un appartement les amis, parfois vous tombez sur la mention atypique. Alors,
ah oui. Ça veut souvent dire que c'est pourri. Et lui, Karim achète. C'est notre différence.
On pourrait traduire gentiment atypique par il n'y a pas tous les critères, on est d'accord, mais c'est surprenant et ça peut devenir votre coup de cœur. Et bien là, on a trouvé donc le candidat atypique chez les démocrates. Il s'appelle Pete Buttigieg. Et je vous en parle parce que depuis quelques jours, il fait une percée. Il est même en tête aujourd'hui dans l'Iowa et le New Hampshire. C'est pas rien parce que ce sont les deux premiers États qui vont voter pour les primaires démocrates. Ça sera tout début février. Alors, je vous mets le clip de campagne. Alors, pourquoi il est atypique, Pete Buttigieg? D'abord, son âge. Il a 37 ans. Ce qui veut dire qu'il a 41 ans. Il a 41 ans de moins que Bernie Sanders, par exemple. 40 ans de moins que Joe Biden. Elizabeth Warren, autre candidate, elle est aussi bien au-dessus de 70. Il est largement le plus jeune de cette campagne. Alors, est-ce que la jeunesse, c'est un avantage? Lui, il ne le met pas trop en avant. Il n'en parle pas tellement de son âge, mais il dit surtout que ce n'est pas un handicap. Et d'ailleurs, il nous renvoie à l'élection de notre président Macron. Il est atypique aussi, Buttigieg, parce qu'il est gay. Et il le dit, il est homosexuel, il le montre, il embrasse d'ailleurs son mari très régulièrement dans les meetings, et ça dans une campagne américaine, une campagne présidentielle, c'est plutôt inédit. Il est atypique enfin par son parcours, parce qu'il a fait Harvard, il est aussi vétéran, Pete Buttigieg, il a fait la guerre en Afghanistan, ça aussi c'est nouveau. Il est aussi maire d'une petite commune du Midwest, dans l'Indiana, alors c'est un maire démocrate, dans un coin qui est plutôt conservateur, très conservateur, ça aussi c'est rare. Si vous cherchez un nom, un surnom, Mayor Pete, vous pouvez l'appeler comme ça, c'est plus simple.
Ah oui, c'est plus simple.
Buttigieg. Et puis je terminerai en disant qu'il est chrétien, il a la foi, il le dit, et puis il parle plusieurs langues, ça aussi c'est plutôt exotique chez les Américains, plusieurs langues, dont le français. Alors je ne vais pas vous faire le détail de son programme, on va dire.
Il situe à gauche ou à droite
de l'aile démocrate? Il est plutôt au centre.
D'accord, centriste.
Il est toujours modéré dans ses propos, et ça aussi c'est très intéressant chez lui parce qu'il n'est pas du tout vindicatif, mais en même temps il a une pensée très construite, et il n'hésite pas d'ailleurs à aller sur le terrain des électeurs républicains. Et là, je vous mets la musique, le rendez-vous en terrain connu. Eh, parce que c'est pas rien, il y a quelques temps, Pete Buttigieg, il est allé sur le plateau de Fox News, la chaîne des conservateurs, la chaîne de Donald Trump.
Ça a dû être un bon moment.
Il est allé au charbon, mais il a parlé très simplement. Et quand il parle de Trump, ça aussi c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de démocrates, quand ils parlent de Trump, ils en disent beaucoup de mal. Ouais. Le problème, c'est que bah, souvent, ça nourrit ceux qui soutiennent Donald Trump. Lui, il en parle avec plutôt de l'humour.
Il faut absolument qu'on change de chaîne, qu'on arrête avec ce show qu'il a lui-même créé. Mais je le reconnais volontiers, c'est difficile de ne pas regarder. C'est même le propre des choses grotesques, on a du mal à ne pas regarder.
Voilà, il est très drôle.
Ça, il le dit sur Fox News.
Ouais, absolument.
Ah ouais. Et le public a applaudi, ouais, donc comme quoi.
Il avait quelques supporters dans la salle. Alors, il faut dire malgré tout qu'il a encore beaucoup de mal, Pete Buttigieg, avec les électeurs noirs et les latinos. C'est pas rien quand on se présente à une campagne américaine. Donc, c'est loin d'être gagné. Alors, lui, ce qu'il dit, notamment pour convaincre ses communautés, il dit « J'ai jamais été discriminé en raison de ma couleur de peau, mais j'ai expérimenté parfois le fait de me sentir comme un étranger dans mon propre pays. » Là, il fait référence à son homosexualité. Ça a été assez diversement apprécié. Mais il a déjà levé pas mal de fonds aussi. Il a beaucoup d'argent.
C'est ça, ce que j'allais dire. Le nerf de la guerre, c'est l'argent aux États-Unis pour une campagne.
Et son argument, enfin, à Pete Buttigieg, c'est de dire qu'à chaque fois que les démocrates ont gagné, bah, c'était toujours un candidat sorti de nulle part. Ça avait été le cas, effectivement, pour Barack Obama.
Votez pour moi, je sors de nulle part.
Pour Jimmy Carter. Et à l'inverse, à chaque fois qu'on avait un candidat soi-disant évident de l'establishment, ça n'a jamais marché. Hillary Clinton, John Kerry juste avant, et puis Al Gore. Qui était vice-président de Bill Clinton.
Thank you, Jean-Philippe Ballas, pour cette chronique. Merci surtout d'avoir pris le temps d'être avec nous, alors qu'on le sait, le tournage des spots de la dernière campagne Soch vous prend beaucoup de temps.
Soch présente.
L'endroit où nous sommes était sous l'eau dans les années 70. Mais maintenant, chaque année, il s'assèche pendant l'été et devient ce bassin rempli d'herbe. Le gros changement, c'est que je me souviens quand Phantom Lake ne s'asséchait jamais.
Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses?
La meilleure diction d'Europe 1, Jean-Philippe Ballas.
16h, 18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
Vous écoutez Mathieu Noël, entouré d'Eva Rock et des invités. Et il se trouve que vendredi dernier, Michel Blanc était venu nous parler de son dernier film, Docteur, dans lequel il incarne un médecin urgentiste au bout du rouleau de garde la nuit de Noël.
Michel Blanc, déjà invité, extrêmement pratique, puisqu'on zappe les 4 minutes de monologue où je dois expliquer qui est l'invité, ce qu'il a fait, pourquoi il est connu. Là, Michel Blanc, c'est tout simplement Michel Blanc, hein. Les bronzés, tenue de soirée, grosse fatigue, marche à l'ombre, l'exercice de l'État. Vous avez eu le bon goût de jouer dans le film culte de mes films cultes, Les Grands-Ducs, aux côtés des trois regrettés, Marielle, Rochefort et Noiret. J'espère qu'on aura le temps d'en dire un mot tout à l'heure. Et la semaine prochaine, vous serez à l'affiche d'une comédie qui va nous faire beaucoup de bien. Docteur de Tristan Seguela avec l'excellent Hakim Jemili. C'est rare que vous ayez un coup de cœur pour un scénario à ce point, puisque j'ai lu, vous avez dit, si Tristan Seguela n'avait pas porté le projet, eh bien, vous l'auriez bien réalisé vous-même, ce scénario.
J'ai dit ça, moi ?
Vous avez dit ça, Michel.
Je veux des preuves. Vous avez un document signé ?
J'ai un document de vous signé.
Bon, non, ce que je voulais dire par là, c'est que c'était extrêmement bien écrit.
Et c'est rare, c'est de plus en plus rare, les scénarios bien écrits qui vous arrivent.
Pourquoi je tourne aussi peu, à votre avis ? Parce que je suis fainéant, parce que j'aime pas mon métier. Non, c'est parce que c'est vrai, c'est pas très, 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 très courant.
Donc là, vous avez vraiment été emballé.
Oui, vraiment, vraiment.
C'était un buddy movie basé sur un tandem.
Voilà, je préfère en français, moi, c'est
basé
vieille
sur un tandem,
habitude.
Du réflexe. Et alors, pour que ça fonctionne, il faut que le tandem, qu'il y ait une alchimie qui se forme dans le tandem. Là, avec Hakim Jemili, on peut dire que c'est le cas. C'est une vraie belle rencontre, ça.
Oui, quand Tristan m'a montré les essais d'Hakim, j'ai dit, d'abord j'ai éclaté de rire, j'ai dit oui, il est formidable, il est très doué. Le problème, c'est de savoir quand on va jouer avec, si il y a l'électricité
si
va circuler entre les deux. Et ça, on ne peut le savoir que quand on commence à jouer. Et ça s'est vraiment produit. Et d'ailleurs, ça a été de plus en plus fort. Et maintenant, on a même une espèce de complicité. On a fait des présentations un peu partout en France. Et à la fin, il y a des débats. Et on faisait presque des numéros de stand-up à deux. Et c'était très, très rigolo parce que, voilà, on était un peu sur la même longueur d'onde.
Vous le connaissiez avant, parce qu'il faut dire qu'Hakim Jemili n'est pas connu au cinéma. C'est son premier film. Par contre, c'est une énorme star sur Internet.
YouTube,
il a des millions de vues sur YouTube. Vous ne l'aviez pas vu avant.
Non, je ne le connaissais pas.
Alors,
non,
on rappelle peut-être le pitch du film.
Mais oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Parce que qu'un duo fonctionne, bon, très bien, mais il faut qu'il fonctionne super bien parce que vous êtes de tous les plans, vous êtes tous les deux. Il n'y a que vous quasiment dans le film. En fait, vous jouez Serge, Michel Blanc, qui est un médecin de SOS, médecin de garde de nuit. On est le soir de Noël.
Un peu désabusé.
Et usé. Tous les collègues se sont défilés. Vous êtes le seul à devoir officier. Et puis, vous faites une rencontre improbable avec un livreur, Uber Eats, hein, pour pas nommer la marque en question, qui lui rêverait bien d'être médecin, en fait.
Ah bah, pas au début,
non, mais tout ce qu'il veut,
c'est
livrer
sa choucroute. Là. Ouais. La première, c'est le choucroute. Et c'est la seule chose. Et c'est un peu conflictuel, notre rencontre, parce qu'il essaie de rentrer avec le Vélib, parce qu'il s'est fait tirer
dans
son vélo.
Dans
avec le Vélib, dans l'ascenseur. Donc la première rencontre, elle est un petit peu
tendue, exactement. Et puis, en fait, il va devenir votre aide, votre j'allais dire votre aide-soignant, c'est pas ça, mais
si,
en fait, c'est un peu ça quand même aussi.
Il va faire le boulot
Nous
allons inventer la télémédecine.
Voilà, c'est exactement
qui arrive demain. Elle est déjà sans suivi. Il sera mercredi prochain à l'affiche de Docteur avec un point d'interrogation de Tristan Seguela. Michel Blanc passe l'après-midi avec nous.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Michel Blanc, thème du quiz aujourd'hui, clin d'œil évidemment à votre film Docteur, puisque vous allez être opposé à Eva Rock sur un terrain médical.
Voilà.
C'est un vrai faux. Chaque bonne réponse, vous êtes hypochondriaque, paraît-il.
Oui, mais enfin, ça prépare à la mort, pas à la médecine.
C'est parti quand même. Eva Rock,
oui.
En Allemagne, la cour de Francfort a reconnu la gueule de bois comme étant officiellement une maladie, vrai ou faux?
Ah bah, j'ai très très envie de dire vrai.
Mais réfléchissez avant de donner une réponse.
Bah, je dis vrai.
Vous dites vrai quand même?
Oui, je dis vrai quand même.
Et comme quoi, c'est quand vous ne réfléchissez pas que vous donnez les meilleures réponses.
Ouais.
C'est vrai. Le 23 septembre dernier, en pleine fête de la bière, la cour a interdit la commercialisation d'une boisson prétendant lutter contre la gueule de bois, argumentant que n'étant pas un médicament, elle ne pouvait pas se vanter de guérir une maladie, donnant, par le même coup, à la gueule de bois, le statut officiel en Allemagne de maladie.
Ils sont très forts.
On sait, Eva, vous passerez vos fêtes de fin d'année.
Exactement.
Michel Blanc, aux États-Unis, deux docteurs californiens ont mis au point un robot du nom de Steve Tooth, véritable simulateur d'un patient qui souffrirait des dents, pour entraîner les étudiants en orthodontie, vrai ou faux ? Steve Tooth.
Bah, le nom me fait penser que c'est une connerie, mais il y a beaucoup de simulateurs, pas seulement pour les avions, pour les médecins aussi, donc c'est fort possible.
C'est fort possible, et moi j'aurais répondu vrai, parce que en plus je suis sûr que ça existe. On me dit faux.
Ah bon ?
Par contre, il existe Patrick pour s'entraîner à faire un toucher rectal. C'est un robot représentant une paire de fesses reliées à un corps virtuel dans lequel l'étudiant peut introduire un doigt. Patrick interagit avec l'étudiant selon la qualité du toucher.
Bah, ils sont cons, à mon avis, ils auraient eu beaucoup de candidats.
Oui.
C'était effectivement l'autre option. On est aux États-Unis, ils sont plus prudes que nous, vous savez, Michel.
Mais ça rappelle quand même une scène du film. On n'en dit pas plus.
Eva Rock, Michel Blanc, vous répondez ensemble. Je vous présente Arthur Larsen, champion de tennis dans les années 50, finaliste même de Roland Garros. Il a même gagné l'US Open. Et pourtant, les médecins lui avaient diagnostiqué une maladie très rare. Laquelle ? Trois propositions. Gaucher, il avait la main paralysée, il a dû apprendre à jouer de la main droite. Bipolaire, il pensait avoir un aigle sur l'épaule. Ou 3, victime d'hyperballonnement, il avait une dérogation de retourner au vestiaire à chaque changement de côté.
Oh non, c'est des questions là, franchement.
C'est très pointu, Michel.
C'est plus que pointu. C'est pas moi. Le moins couillon des trois, c'est d'apprendre à jouer de l'autre main.
Ah ouais, ouais. C'est vrai que c'est le plus malin.
Oui.
Eva.
Moi, je vais te dire la réponse 2, là, qui est complètement
bipolaire,
absurde.
Il pensait avoir un nez sur l'épaule.
Ouais.
Mais je vois pas en quoi ça gênerait. Vous-même, vous devez être assez dérangé pour pouvoir penser que c'est la bonne réponse.
Oui, mais moi, vous savez que je suis complètement folle.
Et pourtant, vous avez la bonne réponse. Alors, je ne connaissais pas cette histoire. Il pensait avoir un aigle sur l'épaule. Il lui parlait même pendant le match. Il était connu pour avoir toujours, en dehors des cours, une cigarette ou un verre à la main, ou les deux. À l'US Open, il avait même demandé de faire couvrir les statues d'aigle en marbre pour ne pas perturber le sien. Eh oui, son aigle qu'il avait sur l'épaule.
Ça,
voilà.
ça fait partie des gens que je n'aimerais pas trop rencontrer.
Je pense qu'aujourd'hui...
Surtout sur un cours.
Eva Rock, en Inde, on est tellement sensibilisé aux médecines traditionnelles qu'il y a un ministre du yoga. Vrai ou faux ?
Oh, pourquoi pas, oui. Allez, un ministre du yoga. C'est une bonne idée.
Eva est touchée par la grâce aujourd'hui.
C'est vrai ?
Ou tout simplement le hasard la favorise-t-elle ? Vrai, c'est le cas depuis 2014. Il est également ministre de l'Ayurveda, qui est une sorte de yoga pour l'esprit, ainsi qu'un ministre de l'homéopathie.
Ah bon ?
Oui.
Ce qui prouve que l'homéopathie, enfin bref.
Oui, voilà. Mais
ne doit pas être remboursée.
Dernière question qui va vous départager, c'est la question bonus. Elle vaut 4 points.
Je ne gagne jamais, Michel Blanc,
la touche a été inventée par le médecin personnel de Louis-Philippe Ier. Extrêmement actif, il trouvait que prendre des bains prenait trop de temps. Vrai ou faux ?
C'est vrai que ça prend trop de temps, j'en prends pas. Je prends que des douches. Donc je serais tenté de dire que c'était un homme intelligent. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? J'en sais foutre rien.
Vous avez toujours le bon raisonnement, Michel, mais jamais la bonne réponse. C'est faux ! En revanche, la douche a bien été inventée par un docteur, docteur Mary Delaboste, au XVIIIe siècle. Il était le médecin-chef de la prison de Rouen. Le taux de mortalité de l'établissement était tellement important à cause de l'hygiène qu'il a eu cette idée très économique et salutaire pour la santé des détenus, la douche, tout simplement. Voilà. C'est donc... À la surprise générale.
C'est la première fois depuis le début de l'année.
Eva Rock qui remporte. Et vous noterez que quand Eva Rock remporte un quiz, il n'y a pas de musique gay pour souligner la victoire.
C'est comme ça. Vous aviez en face de vous un médiocre candidat.
Non, pas du tout. D'ailleurs, vous avez appris à faire des gestes pour.
Bien représenter. Ah, bah oui, il faut que ça ait l'air vrai.
Le toucher rectal ?
Non.
Parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Chacun sa spécialité, c'est Hakim, ça.
Si vous êtes aussi optimiste que Chantal Goya lorsqu'elle appelle SOS médecin.
Quel bonheur un docteur qui arrive à l'heure.
Mercredi prochain, allez voir Docteur, le nouveau film de Tristan Séguéla avec Michel Blanc. Ça devrait vous soigner de l'optimisme.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et il est 17h22, nous sommes avec Mathieu Noël. Le week-end, on se remémore la semaine passée. À ses côtés, il y a Eva Rock, les journalistes en compétition, en l'occurrence Axel de Tarlet, dont on va découvrir tout de suite le sujet. C'était d'ailleurs mercredi, en présence de l'humoriste Verino.
Respirez fort. Détendez-vous à l'écoute d'une émission à la fois gaie et enrichissante intellectuellement. 2 heures pour rire et étoffer votre culture G en départageant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Enfin les meilleurs. Parmi ceux qui sont venus bosser, sachant que les autres sont en bas d'Europe 1 en train de crier
« Solidarité avec la CGT !»
Pour les noter. voter, vous bien sûr via Twitter et notre invité l'humoriste Verino.
Cuando vamos a crear Europa
numéro 1. Non, vous emmerdez pas Axel, il est né à Nancy. Justement Axel, vous êtes notre dernier journaliste en compétition aujourd'hui et dans ce débat national sur la réforme des retraites, vous allez nous aider à y voir plus clair en revenant à l'origine du système. Car avant de le changer, il faut déjà le comprendre.
Exactement, donc notre régime général des retraites a été créé en 1945, par le Conseil national de la Résistance. Voilà. Et comme vous le disiez, l'objectif, c'était de permettre aux vieux travailleurs de finir dignement leur vie. Mais il y avait déjà des régimes qui existaient pour certaines professions, ce qu'on appelle aujourd'hui les régimes spéciaux, qui étaient bien antérieurs. Par exemple, à la Banque de France, ils ont un régime qui date de tous les salariés de 1808.
C'est les régimes spéciaux sont antérieurs au régime général.
Les marins ont un régime spécial, c'est un décret royal de 1673, vous voyez, un décret royal, ce qui fait que les marins ont aussi un régime spécial. Le régime des cheminots, il date de l'invention du train à vapeur, donc il date de 1850. Et à l'époque, on l'a créé, c'était d'ailleurs pour attirer des cheminots qui sinon auraient trouvé que le métier n'était pas très attractif. Et alors, tous ces régimes spéciaux, ils ont refusé de rejoindre le régime général en 1945, parce qu'au fond, c'était des régimes qui fonctionnaient très bien, comme aujourd'hui, d'ailleurs, ce que nous expliquent les avocats, qui ne demandaient rien à personne, et qui fonctionnaient en vase clos, où les anciens payaient, les nouveaux payaient la retraite des anciens. Le problème, alors, à la SNCF, c'est que le nombre de cheminots a été divisé par 3 depuis 1945. Mmh. Donc aujourd'hui, vous avez, par exemple, les cheminots, ils sont 146 000 à la SNCF, mais vous avez 260 000 retraités de la SNCF. Donc vous voyez, c'est très compliqué pour eux. Ils assument de nombreux cheminots retraités. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a eu l'allongement du temps de la vie. Alors ça s'est fait des deux côtés, l'allongement du temps de la vie. Parce qu'autrefois, en 1945, et ça a été le cas jusqu'à Mitterrand, on partait à la retraite à 65 ans. Et Mitterrand, en 1981, a dit « Ah ben maintenant, on part à la retraite à 60 ans ». Donc on a gagné 5 ans de vie avant. Et puis depuis 80, en plus, l'espérance de vie a doublé à partir de 60 ans. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on a gagné avant, qu'on gagne après, les retraites françaises sont les plus longues de l'OCDE. Les hommes passent 24 ans à la retraite, hein, et les femmes, 27 ans à la retraite.
Donc, on sent que vous n'êtes pas CGT, que vous êtes pour la réforme de la retraite, Axel.
C'est vrai que c'est ce que dit Édouard Philippe, c'est qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps. Non, mais le gros problème de cette réforme, c'est que le gouvernement dit qu'elle est à coût constant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les retraites, ça pèse 14% du PIB, ce qui est là aussi beaucoup plus que chez nous. Non, mais on a de belles retraites en France d'ailleurs. Hein. Donc on dit, le gouvernement dit, on ne va pas rajouter de l'argent dans ce système qui déjà coûte cher. Donc comme on fait une réforme à coût constant et qu'on dit qu'il va y avoir des gagnants, forcément, les gens prennent leur calculette et ils disent...
Il va y avoir des perdants.
Ah ben voilà. Et donc les perdants, ils sont où ?
Dans la rue.
Eh ben, ils sont dans la rue. Et c'est normal, on est dans une société individualisée et qui ne regarde pas quand il y a une réforme. Quelles seront les conséquences pour lui ? Vous savez que les enseignants seront pénalisés par cette réforme si on ne fait rien. Et donc, d'où le blocage, c'est qu'on fait une réforme à coût constant.
Ça ne peut pas être win-win, cette réforme. On ne peut pas trouver un...
Ah bah si jamais on dit c'est à coût constant, c'est-à-dire qu'on ne dépassera pas les 14% du PIB...
Il y aura forcément des perdants.
S'il y a des gagnants, forcément, c'est qu'il y a un perdant.
Ouais. Et c'est pas Elon Musk.
Et c'est certainement encore ce salopio d'Elon Musk qui va tirer
alors
son épingle du jeu.
En deux minutes, j'ai parlé de la réforme des retraites.
Oui, vous avez réussi. Alors par contre, j'ai Mathieu Charrier qui me dit que c'était nul. Je ne sais pas s'il va écouter la chronique, mais en tout cas, par principe, il dit par principe,
il a un texto automatique qui passe.
Un texto automatique à chaque jour à l'heure d'Excel de Tarlé.
Attendez, j'avais une belle chute pour.
Chuter, mon ami.
Parce que je sais que vous êtes très sensible à la qualité de la chute.
Tout à fait.
Vous savez pourquoi c'est anxiogène la retraite ? Parce que ça nous concerne tous. La retraite, comme on dit, c'est le capital de ceux qui n'en ont pas.
Waouh !
Bravo ! Il est tout content. Si vous pouviez voir mon Axelou en studio,
c'est le seul
Charrier
au fond du trou.
C'est plein de bon sens.
C'est fou. Il se réjouit comme un gamin qui vient d'avoir un bon point. Je ne sais pas s'il y a toujours des bons points à l'école. Bah, comme moi, quand j'étais petit, que j'avais un bon point. Merci, Axel de Tarlé.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
2 heures pour se divertir et s'informer. Oui, c'est ça l'équipe est sauvage avec Mathieu Noël. Retour sur la semaine passée. Et lundi, c'est le chanteur Tété qui était venu nous parler, entre autres, de la réédition de son album Fautantique.
Je l'adore car c'est un grand artiste, mais aussi un fiefeux déconneur. Puisqu'à l'occasion de la réédition de son dernier album Fautantique, sa maison de disques a proposé, et c'est vraiment génial, un faux dossier de presse. Un dossier de presque.
Exactement.
Bonjour Tété.
Bonjour.
Alors, dans ce dossier de presque, une bio vous résume sommairement mais efficacement, je cite. Thierry Théodore Niang, dit Tété, né au Sénégal en 1975 dans la ville de Houston. Et il grandit dans un foyer d'élèves surdoués où il apprend le violon puis la guitare, mais s'entoure bien vite des petits caïds de l'établissement. C'est avec eux qu'il s'enfuit de l'école pour vivre dans la rue, de la débrouille et de petites arnaques. Une vie d'errance qui s'avère difficile pour cet enfant qui aspire à la tranquillité et s'imagine plus tard conseiller en assurance au Crédit Mutuel. Un rêve de gosse qu'il ne réalisera jamais. Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont tombés dedans ?
C'est arrivé une fois ou deux. Alors j'étais fort gêné parce que moi je voulais en faire mes complices. Je voulais surtout pas me moquer d'eux. En fait, on voulait, vu que l'album traite de ça, faire une bio à l'avenant et on a demandé à un collègue du Gorafi.
Ah oui,
de voter là-dessus. Gentiment, voilà, qui nous a gentiment proposé de revisiter ma vie.
C'est vraiment très très bien trouvé. Il monte à Paris et pour être diffusé en radio, il hypnotise un programmateur de France Inter dans l'arrière-salle d'un bar mal famé.
On dirait Wikipédia.
Ça ressemble finalement à Wikipédia. Avec trois titres supplémentaires, on va revenir sur ce dernier album. Mais d'abord, j'ai une question qui me taraude depuis que j'ai découvert vos dates de concert à venir. Le 18 janvier, vous serez en concert à Sydney. Ouais. Et le 1er février, vous serez en concert à Crépy-en-Valois. Ma question est simple, Tété. Laquelle de ces deux dates attendez-vous avec le plus d'impatience ?
Ah bah Crépy.
Mais c'est incroyable, c'est un world tour, vous partez en Australie ?
Je pars en Australie et je suis ravi, ça va être ma quatrième tournée et j'y suis pas allé depuis quelques années.
Alors une question...
Est-ce que c'est vrai ? Parce que maintenant je me demande si tout ça est vrai.
Vous avez un public international ou c'est des Français qui viennent vous voir partout dans le monde ? Enfin c'est des Français en Australie
C'est un mélange des deux, un petit peu des Français qui sont en vacances ou installés là-bas. Et puis on a des fois la chance de jouer devant des gens du cru et c'est vrai que c'est une grande leçon d'humilité et à chaque fois c'est génial quoi.
Alors l'album s'appelle Fautantique, on a compris le jeu de mots. Vous dites, j'ai toujours beaucoup aimé la figure du faussaire d'antan qui falsifie des timbres ou des tableaux comme un pied de nez au système. Il y avait quelque chose de très romanesque là-dedans. Vous avez dit, dans l'album, vous dénoncez des choses qui sont beaucoup moins romanesques. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des faussaires romanesques qui vous plaisent ?
Oh oui, c'est la figure du trublion, entre guillemets, qui joue un petit peu tout ça. Je crois que toute société a besoin d'un fou qui peut se permettre de dire des choses que personne d'autre ne peut dire et en même temps, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Parce qu'il est fou. Et c'est position. Une espèce de soupape de dépression, non ? Comment est-ce qu'on dit ?
Décompression.
De décompression. Voilà.
Il sera le 18 à Sydney. Dépêchez-vous, il reste encore des billets en écho à 2800 aller-retour sur Aeroflot avec un changement à Buenos Aires. Sinon, il sera aussi à Crépy-en-Valois le 1er février. Tété est avec nous cet après-midi.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
Tété, vous êtes prêt ?
Allez.
Le quiz du jour vous oppose à Eva, rend directement hommage à votre album Fautantique et à votre Fautantique Tour, puisque vous allez jouer à vrai ou fausse fake news. En gros, c'est un vrai faux, quoi. Chaque bonne réponse vaut un point, c'est parti. Eva Rock, quand on vide un lavabo, ça fait un petit tourbillon.
Oui.
Eh bien, le sens de rotation de l'eau dépend de l'hémisphère dans lequel on se trouve.
Oui, c'est vrai.
Vrai ou fake news ? C'est vrai ?
Non mais arrêtez, vous me...
C'est faux.
Non mais attendez, j'ai pas encore répondu.
Si, la réponse a été validée par l'huissier. Maître Enoki qui est en
régie. Je croyais qu'il y avait une histoire comme ça.
Eh ben vous croyez justement,
fake news.
Le sens de l'eau.
C'est pas vrai ça.
Non c'est pas vrai. Vous-même Tété, vous êtes tombé dans le panneau.
J'en étais persuadé moi.
Ah merci Tété.
Justement, je me suis dit, vous qui allez en Australie à Sydney, regardez le tourbillon, il doit être dans l'autre sens.
Il faudra vérifier.
Je me suis dit, en prenant l'avion, mince, j'ai pas vérifié.
Ah bah la prochaine fois, vous vérifiez pour nous. Bah. Le sens de l'eau dépend juste de la forme de l'orifice d'écoulement.
Ah oui, ce qui n'a rien à voir.
Effectivement. Oui. Tété, il y a de la nicotine dans les aubergines. On dirait un titre.
Je regarde mes consultants, je dirais faux. Faux.
Faux.
Faux.
Fautantique, vrai !
Mais non !
C'est vrai, en 2012, une université du Michigan en a décelé dans les aubergines, mais aussi dans les tomates et les pommes de terre. Dans 10 kilos d'aubergines, il y a autant de nicotine que dans une cigarette.
Mais j'adore l'aubergine ! Peut-être qu'il faut que je me mette à fumer !
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce son prononcé dans un silence de cathédrale me sera fort utile demain. Merci, Eva ! Eva Rock, Tété, à vous de trouver la vraie information. Vous jouez en même temps. En 2014, Anthony, 16 ans, a été verbalisé par la SNCF. Une amende de 45 euros. Mais pourquoi ? Trois propositions. 1. Il portait un t-shirt des jeunesses giscardiennes. 2. Il faisait des bulles avec son malabar bigou. Ou 3. Il écoutait de la musique avec des écouteurs.
Ah, je pense qu'il écoutait de la musique avec des écouteurs.
Moi aussi, c'est ce que je pensais.
Alors moi, c'est ce que j'ai cru aussi.
Ouais.
Alors, cela dit, vous avez la bonne réponse. C'est la bonne réponse.
C'est ça.
Mais pourquoi ? C'est pas du tout pour ça.
Non, c'est pas pour le son. C'est autre chose. Mais...
Alors, vous auriez un point bonus si vous trouvez.
Et non, ça va pas me revenir assez vite. Mais non, mais parce que je l'ai lu cette histoire. Oui.
Il écoutait de la musique avec un casque, il ne faisait pas de bruit. La SNCF a appliqué un décret de 1942 disant qu'il est interdit à toute personne d'user d'appareils sonores sur les quais. Le pire, c'est qu'il ne prenait même pas le train. Il traversait la gare. Il a eu une amende de 45 euros. Comme il ne pouvait pas payer sur le moment, c'est passé à 75. Comme ses parents ont refusé de payer cette amende, elle est montée à 300 euros. SNCF, c'est possible.
Mais c'était vraiment pour l'embêter. Hein. Ah c'est incroyable. Ils l'ont ciblé.
Et surtout, ils l'ont utilisé qu'une fois.
Oui. Je crois que c'est pour des raisons de sécurité, en fait, non?
Mais d'accord, mais sauf que vous imaginez le nombre de verbalisations qu'il y aurait si on interdisait à tous les gens d'utiliser un casque sur un quai de train. Tété, il faut un microscope pour faire la différence entre une empreinte digitale humaine et celle d'un koala. Vrai ou faux?
Faux, je sais pas. Oui, faux. Oui, faux. Ils n'ont pas d'empreinte digitale.
C'est vrai. C'est vrai. Votre réponse est fausse. La réponse est vraie. L'université d'Adélaïde en Australie a étudié la préhension du koala, à savoir la façon dont ses marsupiaux attrapaient les feuilles d'eucalyptus. Ils ont découvert des empreintes digitales, alors que les kangourous, qui font partie de la même famille, n'en ont pas. Et là, vous me dites pourquoi? Eh bien, personne n'en sait fichtrement rien. Eva Rock, attention, cette question va vous départager. Si vous louchez volontairement, vos yeux peuvent effectivement rester bloqués.
Ah non, c'est un truc que ma mère me raconte tout le temps. Mais non, 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 je reste pas bloquée. Non, c'est faux ça.
Mais si votre mère vous le disait.
Non, mais non, c'est vraiment le truc. Oui, oui, c'est le truc qu'on racontait aux enfants quand ils étaient petits parce qu'ils faisaient des grimaces.
Mais moi, il y a mon fils qui écoute, je peux pas répondre.
Oui,
c'est faux. Les parents disent ça pour éviter que les enfants fassent des grimaces. Effectivement, effectivement. Eva, qui remporte le quiz?
Je crois que c'est moi.
C'est Eva Rock qui remporte le quiz face à Tété. C'est historique, mesdames et messieurs.
Europe 1. 16h-18h, l'équipée sauvage.
17h43, nous sommes toujours avec Mathieu Noël, autour duquel on retrouve Eva Rock, les invités, les journalistes d'Europe 1. Et place maintenant, tiens, à l'un de nos correspondants en région.
Et aujourd'hui, nous partons en Espagne. Merveilleuse Espagne, où la puissance de la pata negra n'a d'égal que la douceur des femmes.
Cállate, hijo de puta, te mato como una mierda de Zaragoza con negros que tienen el sida, que te dan por el culo el salchichón de la sodomización de comer mata puta madre, gilipollas, cabrón.
Ah, heureusement qu'il y a EasyJet et heureusement qu'il y a Mickaël Youn, notre invité, pour cette magnifique interprétation de la femme espagnole. Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes notre correspondant en Espagne. Oh, pays de la fête, l'Espagne. Enfin, plus vraiment, Henri, les discothèques ferment les unes après les autres. Qu'est-ce qui se passe?
Mais écoutez, en 10 ans, 65% des boîtes de nuit ont disparu en Espagne. Autrement dit, 3200 discothèques ont mis la clé sous la porte un peu partout, à Madrid, Saint-Sébastien, Barcelone ou Ibiza.
Alors, vous êtes arrivé en Espagne pile au mauvais moment, Henri, vraiment. Vous m'aviez dit, moi, je vais là-bas pour faire la chouille. C'est un super poste de correspondant et pam, patatras, quoi.
Pas de chance. Effectivement, enfin, le problème, c'est que la crise est passée par là. Alors, on a moins d'argent pour sortir et puis on ne peut plus fumer à l'intérieur, vous le savez. Les autorités ont également, comme en France, renforcé les contrôles d'alcoolémie à la sortie. Et les mairies font la chasse aux nuisances sonores, mais surtout les jeunes, pas vous hein, Mathieu, pas moi non plus, les millénials, ceux qui sont nés dans les années 2000, ne voient plus trop l'intérêt d'aller en boîte. Ils préfèrent chatter sur leur téléphone, jouer à des jeux vidéo ou regarder des séries.
Mais il paraît qu'en boîte, on ne drague plus beaucoup. Alors ça, c'est vraiment la fin d'un monde.
Hein. C'est la fin d'un monde. Non, écoutez, draguer en boîte, on faisait ça dans les années 80, 90. Allez, début des années 2000, pour vous, Mathieu, en Espagne, c'est presque terminé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les applications de rencontres comme Tinder rendent un peu obsolètes ces boîtes de nuit. J'en ai discuté avec de jeunes Espagnols rencontrés à la sortie des cours. Écoutez ce qu'en pense Juan, il a 21 ans.
Ya no encuentro tan
Je trouve ça plus très amusant de faire la fête. Et puis c'est vrai que la manière de rencontrer et draguer des filles n'a plus rien à voir avec l'époque de mon père. Avant, tu sortais et tu voyais les gens, alors qu'aujourd'hui, tu connais une fille en premier sur Instagram ou en réseau social, et ensuite tu la vois. Tout a changé. D'ailleurs, j'ai connu ma copine sur Instagram, après on s'est donné rendez-vous, puis on est sortis ensemble.
Dis donc, petit con, de là à dire qu'on serait des vieux ringards, il n'y a qu'un pas, mon petit Juan. Bon alors, mais ça veut dire que les jeunes n'écoutent pas de musique, ils dansent pas, par exemple, Henri?
Si, simplement, les habitudes changent, les festivals en plein air sont remplis, on fait la fête le samedi ou le dimanche après-midi, à Barcelone notamment, il y a les brunchs électroniques. 90% des boissons alcoolisées, en tout cas, sont vendues avant 21h en Espagne, désormais. Et les boîtes qui résistent, en fait, ont changé leurs horaires, ça commence plus à 1h ou 2h du matin, et puis on cherche à attirer les touristes, les étudiants Erasmus, qui représentent aujourd'hui 30% de la clientèle.
Bon, Henri, vous pouvez rentrer à Paris, hein, y a plus rien à faire en Espagne.
Ouais, alors on va voir comment je peux y arriver à Paris, c'est un peu le problème.
Ah oui, attendez quelques jours. Ouais.
Merci beaucoup, Henri de la Guérie.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mercredi, Mathieu Noël recevait un humoriste qui a sa propre plateforme de vidéos à la demande, repérée il y a une dizaine d'années chez Laurent Ruquier. Il sera en spectacle le 31 janvier 2020 à Cormeilles-en-Parisis en Ile-de-France, le 7 février à Hyères, le 8 février 2020 à Cannes ou encore le 21 février à Talent en Côte d'Or. C'est Verino.
Aujourd'hui, c'est l'humoriste Verino qui a bravé les embouteillages pour être avec nous. Il est parti à 8h ce matin, il est arrivé pile poil. Alors, sans vous faire insulte, vous n'êtes pas immensément connu.
C'est terminé.
Du grand public.
Mais c'est pareil.
Du grand public qui regarde Michel Drucker. Vous ne passez pas tout le temps chez Michel Drucker. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus besoin de passer chez Michel Drucker pour être un humoriste très reconnu.
J'ai l'impression qu'en fait, on n'a plus besoin d'être très reconnu pour remplir ces salles. C'est-à-dire que moi, je suis très ciblé. J'ai 430 000 fans, je crois, à peu près sur YouTube. Bah, sur ces 430 000, il y a un nombre important de gens qui viennent acheter leur place et à peu près le même nombre de gens qui achèteraient leur place si je passais chez Drucker devant 4 millions. Aujourd'hui, je cible tellement précisément mon audimat que c'est un audimat qui se déplace voir mon spectacle et c'est beaucoup plus confortable comme carrière.
Quand vous parlez comme ça, on dirait un peu un businessman aussi. Vous avez réfléchi.
Mais je suis producteur aussi, ça m'intéresse. Moi, mon objectif, c'est la liberté. C'est vraiment au-delà même de faire rire. Trouver un moyen de raconter ce que j'ai envie de raconter, d'être libre totalement du démarrage jusqu'à la fin. Et donc, j'aime maîtriser le truc, ce que j'avais pas à la télé, justement. Quand on est à la télé, on se fait remplacer, on nous enlève d'une émission si on a envie. Sur Internet, je suis libre.
Alors, on le disait, vous êtes ultra réactif sur l'actu. Le spectacle évolue au jour le jour. Là, en ce moment, par exemple, qu'est-ce qui vous inspire? Et comment vous travaillez surtout? Moi, ça m'intéresse.
Ah, bah, je travaille de plein de manières différentes. Parce que j'écris, j'ai mes chroniques sur YouTube, où là, j'écris en fonction de ce qui se passe dans le monde. Et puis, j'ai mon spectacle, où là, j'ai des sujets dont j'ai plus envie de parler. En ce moment, je suis en train de travailler sur l'écologie, où je pense que vraiment, c'est un sujet qui mérite d'être mis en avant et d'une manière. Bizarrement, on a du mal à le prendre en humour parce que on se sent responsable, on a l'impression qu'on fait pas assez. En même temps, il y a des tas de gens qui commencent à évoluer. Le véganisme, le végétarisme sont des courants qui sont. On sent qu'il y a quelque chose, on ne sait pas comment se l'approprier. Bah, je pense que le stand-up est le meilleur pour ça. Il faut travailler beaucoup pour réussir à obtenir quelque chose. Donc là, je suis depuis 2 mois sur ce passage-là qui commence à avoir une tête. Je suis content.
Et votre public, alors évidemment, vous avez des fidèles qui vous suivent, mais parfois il y a des petites incompréhensions. Bah, ça, j'imagine que ça arrive à tous les humoristes. Quand vous évoluez au deuxième ou au troisième degré, parfois certains ne captent pas vraiment. Vous aviez fait une pétition, je crois, contre les gens méchants, c'est ça? Et certains l'avaient pris au premier degré. Ils avaient dit, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses.
C'est ça qui était incroyable.
Non,
c'est que moi, je vois, donc je crée cette pétition contre les gens méchants, parce que j'en ai marre des pétitions faciles contre la faim dans le monde, contre les pédophiles. Enfin, tu vois, il y a un moment. C'est bien de faire des pétitions, mais juste c'est normal qu'il y ait 200 000 personnes qui signent contre la forêt amazonienne qui brûle parce que c'est grave. Donc c'est voilà, et donc j'en avais marre de ça. Donc je me suis dit, moi aussi, je vais faire ma pétition débile. Et résultat, on est 20 000 personnes à avoir signé un truc contre les gens méchants. Mais au milieu de ces 20 000 personnes, j'ai quelqu'un qui m'écrit, c'est pas comme ça qu'on va faire bouger le gouvernement. Donc chose qui m'énerve. Alors je lui envoie un message pour lui dire, c'est du second degré, tout ça. Et elle me répond, mais moi aussi, c'était du second degré. Et
vous
je me rends compte sur Internet qu'en fait, le second degré, il est ingérable. Si tu. Tout est premier degré sur Internet. Évidemment, tu peux pas mettre du second degré dans ce que t'écris, quoi. Ça n'est pas possible.
Ben oui, la phrase, on n'a pas le ton. Donc
exactement.
On peut pas savoir. Alors, mon cher Verino, on peut vivre sans rire, on peut vivre sans bosser, la preuve. Mais on ne peut pas vivre sans manger. L'individu qui vient de s'asseoir à vos côtés n'est pas gros. Il a ce qu'on appelle, à l'heure du politiquement correct, une musculature fluide. Mammifère de type omnivore, grand amateur de viande en sauce, d'œufs en gelée, de pommes de terre en robe des champs, notre expert gastronomique Olivier Poul se fixe néanmoins certaines limites.
Ah non, j'aime pas la choucroute, ça fait des ballonnements.
Certaine idée de l'élégance française. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu. Bonjour Véronique. Je suis content de vous voir parce qu'on avait votre frère dans justement la table des bons vivants samedi dernier, Sansé.
Monsieur est humoriste à 16h aussi. Je vous présente les nouveaux talents, la nouvelle scène. Alors Olivier, vous nous gâtez aujourd'hui puisque c'est mon péché mignon. Vous nous proposez la recette de ce que Nancy a fait de mieux après ma compagne, le pâté lorrain.
Oui, alors pas tout à fait mon cher Mathieu parce que
votre fiancée est délicieuse.
Je pense qu'elle sera ravie d'entendre ce petit passage et je me fais fort de lui faire écouter, figurez-vous. Alors pas tout à fait parce qu'en fait le pâté lorrain n'est pas né à Nancy comme vous ou comme la compagne de Mathieu Noël, mais il est né à Baccarat. Et on en trouve trace, oui,
comme
c'est pas très
cristal,
loin.
Là.
Exactement. Et on en trouve trace dès 1392, car je sais que vous aimez ces précisions historiques,
j'adore
mon cher
ça.
Mathieu. On en trouve trace dans le Taïwan, ce fameux manuel de cuisine, l'un des premiers d'ailleurs qui a été rédigé en France. Alors, est-ce que vous le connaissez? Oui, j'imagine, vous avez mangé forcément des pâtés lorrains.
Tout à fait. Ah, le pâté lorrain, oui, j'en ai mangé avant d'être végétarien.
Ah mais donc il va falloir que je vous confectionne une farce végétarienne dans votre pâté d'oreille.
Bah, je pense que c'est le devoir de tout beau cuisinier. Moi convaincre.
Faut vous parler de
bon,
votre temps.
J'avais pas tout à fait prévu ça, mais on va essayer d'improviser un petit truc.
Oh non, je voudrais pas vous embêter. En plus, c'est délicieux la viande. Hein. C'est pas bon pour l'environnement, mais par contre, c'est bon pour le goût.
Non, oui, c'est vrai.
Faites-nous les deux, pour
alors, dans la vraie version authentique, c'est évidemment de la viande. Moi, je mélange porc et veau pour avoir un peu plus de moelleux.
M'étonne pas de vous.
Et alors, l'astuce absolue. C'est qu'il faut faire mariner un peu ces viandes dans du vin blanc avec de l'échalote, avec un petit peu de ciboulette, un peu de persil. Mmh. Mais surtout, on ne les fait pas hacher, on les coupe au couteau. Ah. Ça donne plus de mâche et ça permet de garder un côté plus juteux dans la viande.
Mais il faut faire le feuilleté, c'est compliqué.
Alors, c'est une pâte, normalement c'est une pâte brisée. On peut l'acheter bien évidemment, on peut la faire à la pâte feuilletée pour alléger un peu, mais dans la vraie recette c'est une pâte brisée. Donc on va acheter cette pâte brisée, on va couper notre viande, la faire mariner, la mettre dans notre pâté qu'on va refermer avec un autre morceau de pâte, en collant bien évidemment avec un petit jaune d'œuf de manière à ce que ce soit parfaitement hermétique.
Et voilà. Parce que vous dites coller, il faut utiliser des termes justes.
On colle les pâtes au jaune d'œuf et on va rajouter un peu de jaune d'œuf au pinceau par-dessus la pâte pour bien la faire dorer. On la met dans un four à 180 degrés pendant chaleur tournante, bien sûr, pendant une quarantaine de minutes. Et alors là, si on devait inventer une petite version végétarienne, en ce moment, par exemple, on pourrait imaginer une petite farce avec des légumes racines. On pourrait mettre, je sais pas, un petit peu de panais. On pourrait rajouter un peu de carottes. Moi, je rajouterais bien des blettes. C'est pas des légumes racines, mais en tout cas, on pourrait mettre des blettes hachées.
Pourquoi pas quelques champignons ?
On pourrait mettre quelques champignons pour donner un côté moelleux et
des
juteux.
Des tomates. Chacun met ce qu'il veut.
Là, on n'est pas tout à fait dans la saison. Mais avec les champignons, je suis tout à fait d'accord, et on pourrait faire cette petite farce avec des herbes et on la met dans notre pâte et je pense que ça peut marcher. On va essayer d'ailleurs.
Le mieux, c'est quand même que vous veniez la faire directement à domicile, Olivier. C'est toujours plus simple,
écoutez,
toujours plus réussi.
Rendez-vous.
Prenons date avec nos auditeurs. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.